Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. Nous sommes le 16 septembre 2020. Bientôt, ce sera l'automne. Mais un automne où, grâce à Stéphane Bern, pour moi en tout cas, il fera beau. Oui, à mes côtés, chaque après-midi, il est là, avec sa coiffure anachronique, ses chemises rentrées dans le slip et à motif indéterminé. Il ne ressemble pas à une aquarelle de Marie Laurencin, plutôt à une installation avant-gardiste de Jeff Koons. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu. Seulement, je pouvais valoir autant qu'une œuvre de Jeff Koons.
Ça viendra, Stéphane, un jour.
J'espère. Très heureux, en tout cas, de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. 2 heures d'histoire décomplexée et rieuse, avec à chaque fois 3 personnages reliés par un point commun.
Oui, Stéphane, et aujourd'hui, un thème qui devrait vous intéresser, vous interpeller, en tout cas, car même si vous en parlez peu dans les médias, et on peut le comprendre, vous faites partie de ces gens qui ont, comme on dit, un problème avec l'alcool.
Non mais... pas du tout.
Ah, si Stéphane, je vous assure, la dernière fois que je vous ai croisé en soirée, vous m'avez quand même dit...
My name is Burn, James Burn.
Problème de boisson donc. Or, c'est le thème de notre émission du jour, c'est à boire qu'il leur faut. Ces figures de l'histoire qui aimaient un peu trop se la coller.
Oui, alors au programme du jour, le poète Lord Byron, Sir Winston Churchill... Et Mathieu, plus proche de nous, quel est le contemporain de l'étape ?
Le seul, l'unique, encore interpellé, ivre sur son scooter il y a quelques jours à Paris, citoyen français, citoyen russe, mais citoyen du monde avant tout, je vous brosserai le portrait de Gérard Depardieu en espérant qu'il ne nous écoute pas.
Tu veux quoi ? Tu veux que je descende à Europe 1 ? Tu veux que je t'allume ?
Mais non Gérard, c'est Stéphane qui a choisi le thème. Moi je voulais pas, je trouve que c'est hyper réducteur par rapport à ta carrière.
Ce que j'admire le plus chez vous Mathieu,
dites-moi.
C'est votre courage.
Ah, oui. Moi aussi c'est ce que j'admire le plus chez moi.
Il y a dans l'équipe d'Historiquement Vôtre d'autres journalistes plus téméraire.
Oui, mais pas forcément plus sobre. Car justement, Stéphane, jusqu'à présent, les autres membres de l'équipe d'Historiquement Vôtre avaient pris la sale habitude d'attendre leur tour au bar d'en face d'Europe 1. Mais désormais, fini de rire les comiques. À partir d'aujourd'hui, ils seront là dès le sommaire pour nous annoncer les thèmes de leur chronique.
Lâche et dictatorial. Voilà, vous êtes décidément un type extraordinaire, mon cher Mathieu. Mais bon, puisqu'ils sont là... Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour.
Vous n'êtes pas au bar mais au fourneau.
Non.
De quelle recette nous racontez-vous l'histoire aujourd'hui ?
Est-ce que vous l'aimez bien imbibé ?
Le baba au rhum.
Le baba au rhum.
Ah, j'aurais dit quelqu'un d'autre, moi.
Oui.
Franchement, tout à l'heure, on sera entre le goûter et l'apéro. Je pense que c'est parfait
c'est
pour le
timing.
Et je vous raconterai l'histoire surprenante de cette création qui vient
de,
bah,
Nancy. De Nancy.
Oui, mais nous, on a des dents. Il nous reste quelques dents. Lui aussi remonte à sa manière aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une passion, que dis-je. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler d'un des risques qu'on court lorsqu'on boit trop, risque qu'on appelle communément le décès. Hein, voilà. Et je vous parlerai plus précisément de la datation des gens décédés. Depuis quand est-ce qu'on sait dire depuis quand les gens sont morts ?
Voilà. Mais pas de ce qu'ils ont bu.
Non, pas forcément.
Ah, c'est sympa votre chronique.
Ouais,
mais ça sera rieur quand même.
Oui,
hein.
Oui, mais ça sera drôle. Et de toute façon, c'est intéressant. Et bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous nous faites pénétrer sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire, à la découverte des petits secrets des grands de ce monde. De qui en particulier cet après-midi ?
Eh bien aujourd'hui, c'est à boire qu'il nous faut Stéphane, mais aussi à manger. Et je vais évoquer pour vous Charles Hippolyte de la Bussière, un bien curieux gastronome qui sauvait des vies à chaque fois qu'il mangeait.
Mmh. Et mon quiz alors, c'est du boudin Stéphane ? Chaque après-midi, mesurez-vous au maître de l'histoire, ou disons celui qui se présente comme tel.
Jamais j'ai prétendu une chose pareille, monsieur.
C'est ce que vous m'avez dit Stéphane quand je vous ai rencontré. Un quiz pour découvrir si Stéphane s'y connaît vraiment en histoire ou pas. Mais commençons tout de suite par David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, ce n'est pas que des histoires palpitantes, des figures de légende, des anecdotes croustillantes, c'est aussi des cas sociaux. Il aime les pizzas hawaïennes, voue un culte au béton armé, et dans sa voiture, oui, il a un sapin odorant qui pendouille au rétro. Pire, il assume tout ça, David Castello-Lopez et de ses gens, Stéphane, qui ne craignent pas le regard de l'autre.
J'espère.
Et aujourd'hui, un thème très rieur. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, Mathieu, Stéphane, bon, alors, je vous aime déjà suffisamment pour souhaiter que vous mouriez le plus tard possible.
Ah, ça, c'est sympa, c'est un beau compliment.
Mais pour les besoins de cette chronique, je vais devoir imaginer que vous êtes mort, en tout cas que l'un d'entre vous est mort, donc je vous laisse choisir lequel.
Moi, parce que je suis le plus âgé quand même.
En quelle classe ? Non, mais c'est plus drôle si c'est moi, Stéphane.
Non, ça me ferait de la peine.
C'est bon, pour de faux, Stéphane.
Bon, c'est moi qui vais trancher et je choisis que Mathieu est mort. Oh. Alors, imaginez.
Mais
avec Stéphane...
que ta grand-mère écoute, par exemple. C'est terrible, ma mère, elle tombe là. Elle allume Europe 1 à ce moment-là. Mathieu est mort, elle entend. Et ensuite, vous déroulez.
Mais elle entend aussi.
Il est malin. Il est futé. Mais il n'est pas là où il est pour rien, je vous le dis. Ça, c'est Stéphane Bern, mesdames et messieurs.
Alors, imaginez qu'un jour, avec Stéphane, on revient de vacances et on va chez vous, Mathieu, pour l'apéro. On ouvre la porte d'entrée, hein, bah oui, parce que comme c'est un monde imaginaire, on a les clés de chez vous. Et paf, on vous retrouve étalé, mort, au milieu du salon. Et on ne sait pas comment c'est arrivé, ni quand c'est arrivé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le savoir ? C'est la question que se sont posées plein de scientifiques dans l'histoire. Et petit à petit, ils ont commencé à trouver des réponses. Ils se sont rendus compte d'abord des trois grandes modifications du corps qui interviennent quand quelqu'un est mort, qui ont tous des noms latins, c'est l'algor mortis, le rigor mortis et le livor mortis, à savoir la température du cadavre, la rigidité du cadavre et la couleur du cadavre. Et là, première personne qui a un petit peu codifié ça de façon organisée, c'est un monsieur français, Alexandre Lacassagne, au 19e siècle. Et il a dit en gros, voilà à quelle vitesse le corps humain a tendance à se refroidir, voilà à quelle vitesse il devient tout dur, voilà à quelle vitesse il devient tout pâle. Mais ces méthodes-là, elles ne marchent en gros que pendant 48 heures. Et le problème, c'est qu'avec Stéphane, on vous regarde. Et franchement, on n'est pas des experts, mais ça a l'air de faire vachement plus de 48 heures que vous êtes là.
C'est terrible.
C'est-à-dire que la seule raison qui fait qu'on vous a reconnu, c'est qu'on était chez vous, en fait. Hein, voilà. Et donc, comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, on peut, avec Stéphane, utiliser une science au nom très doux qu'on appelle l'entomologie forensique. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'entomologie ?
Non. Stéphane, vous savez pas ?
Non.
Ah, il y a un truc qui sait pas. Un point en moins dans le quiz déjà.
Je sais ce qu'est un entomologue, mais
oui. Bah, expliquez-nous.
C'est lui qui fait l'entomologie.
Non. L'entomologue, c'est celui qui
l'ouvre.
Il étudie les insectes, l'entomologue.
Ah oui, c'est
voilà.
Ça.
C'est vraiment, tu sais,
j'avais
j'avais
rencontré un entomologue. Je me souvenais plus ce qu'il faisait. Par contre, dites-moi une chose. Il n'y a pas besoin d'ouvrir pour savoir.
Pas tout de suite. Pas tout de suite.
Ne m'ouvrez pas tout de suite, les amis. On se connaît. On commence un peu à se connaître, mais...
L'entomologie forensique, c'est la science qui étudie les insectes qui colonisent les cadavres. Voilà.
Ah, mais attendez, il y a forcément un insecte qui m'a colonisé quelques heures après ma mort.
Mais tout à fait, il y a toujours des
insectes. Les asticots, ils arrivent tout de suite.
Calmez-vous. Oui, alors bon, ça va être l'heure du goûter. Hein. Donc, petit conseil aux auditeurs, attendez que j'ai fini ma chronique avant de manger, parce que là, ça va se corser un petit peu. Alors, ça fait des centaines d'années qu'on sait que les insectes colonisent les cadavres, mais la personne qui en a fait une science de l'étude de ces insectes, c'est un monsieur français, une nouvelle fois, qui s'appelle Jean-Pierre Ménien, et qui, en 1894, a publié le premier livre de référence sur la question qui s'appelle La faune des cadavres. Et je vous le conseille, c'est une lecture délicieuse.
J'imagine, oui.
Par exemple, page 150, je vous ai pris un petit passage, il dit la chose suivante. Nous avons procédé à l'examen d'une tête humaine coupée, enveloppée dans un vieux jupon de laine et trouvée à la gare des marchandises de Bercy. Sa cavité crânienne contenait un reste de cervelle formant une couche d'un centimètre couverte de déjections d'insectes qui avaient fait leur pâture du reste du cerveau. Voilà, c'est ça l'ambiance de la faune des cadavres. Et la grande théorie de Jean-Pierre Ménien, c'est que les cadavres sont colonisés par des escouades successives d'insectes qui arrivent dans un ordre qui est toujours le même et qui dure toujours aussi longtemps.
Et donc on peut dater.
Exactement. Bon, le truc, c'est que même si l'intuition de Ménien était partiellement juste, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, depuis, la science de Jean-Pierre Ménien a été un petit peu perfectionnée et l'entomologie forensique est encore utilisée aujourd'hui, notamment avec une méthode qui est assez fiable et qui consiste à prélever les larves des mouches qui ont pondu sur les gens morts.
Vous passez une belle après-midi, vous, sur mon cadavre, en tout cas. Hein.
Et oui, parce qu'à température égale, les larves qui se développent sur les cadavres grandissent à un rythme prévisible qui est propre à l'espèce de mouche à laquelle elles appartiennent, les larves. Et la première chose qu'on fait donc avec Stéphane, c'est donc de prélever des larves sur vous et de les mesurer. On se rend compte qu'elles font 13 mm. On connaît bien les larves de mouches avec Stéphane, donc on sait à quelle espèce de mouche elles appartiennent. Et comme on sait aussi qu'il faisait 15 degrés à peu près ces derniers jours, c'est bon. Et oui, parce qu'à 15 degrés centigrades, il faut 5 jours aux larves de cette espèce de mouche pour atteindre la taille de 13 mm. Donc Mathieu, vous êtes mort depuis 5 jours. C'est vrai qu'avec Stéphane, du coup, on ressent une grande tristesse, hein, mais quand même, on est un petit peu fiers d'avoir su déterminer tout seul quand vous êtes mort. Voilà, cette chronique est finie. Mathieu, je vous ressuscite et chers auditeurs, vous pouvez à présent manger votre goûter. Oui.
Dites bien à ma mamie que je suis ressuscité, revenu entre les morts. C'était vraiment passionnant.
Ah oui, c'est passionnant. Et c'est deux Français qui ont mis au point...
On est fort en gens morts.
Et en plus, vous avez appris un mot, entomologie, à Stéphane Bern, qui n'avait aucune idée.
Forensique.
Et forensique, qui n'avait aucune idée de ce que c'était. Voilà.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, les amis, Stéphane a enfilé son petit slip de bain, car c'est l'heure de plonger au cœur de notre émission spéciale « C'est à boire qu'il leur faut ». Avec notre premier soifard du jour, de lui, la postérité a retenu quelques beaux poèmes, quelques aphorismes somptueux comme « L'amitié, c'est l'amour sans elle ». Seulement voilà, quand Lord Byron avait un coup dans le pif, il avait l'aphorisme moins somptueux. Oui, tout doux.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Deux heures pour découvrir trois personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, ils sont ensemble aujourd'hui, unis par un seul point commun.
Aujourd'hui, Stéphane, un point commun très simple. Ils sont poètes, ils sont premiers ministres, ils sont comédiens. Leur carrière est phénoménale, mais voilà, ils ne carburent pas à la Volvic. Leur devise... Et on commence par l'un des plus éminents poètes anglais, Lord Byron, par Stéphane Bern.
Historiquement vôtre. Le récit.
On a tout dit, Mathieu, sur George Gordon Byron, alias Lord Byron. Incestueux, homosexuel, pervers, aliéné, alcoolique. Et de tous ces qualificatifs, Mathieu, celui d'alcoolique est peut-être le moins juste.
Tant qu'il est pervers, ça me va.
À l'inverse de Sir Winston Churchill, dont on parlera tout à l'heure, et qui ne pouvait pas passer une journée sans un verre de whisky, le poète anglais Lord Byron, lui, ne courait pas après la boisson. Véritable dandy, il s'astreignait à un régime draconien dans lequel l'alcool était prohibé.
J'espère qu'il en buvait quand même un petit peu, Stéphane, vu que c'est le thème de l'émission du jour.
Les régimes, Mathieu, vous le savez bien, sont faits pour être contournés quand la tentation est trop forte.
Et
Lord
souvent.
Byron n'a pas échappé à la règle. Chez ce génie de la poésie romantique, la consommation d'alcool était à l'image de son talent et de sa vie disproportionnée. Son père est mort quand il avait 3 ans et quant à sa mère extrêmement autoritaire durant son enfance, Lord Byron a tiré un trait dessus. Oui, il ne la voyait plus. L'alcool arrive, lui, dès ses années étudiantes. Lord Byron a 17 ans quand il entre au Trinity College de Cambridge. Il est déjà passionné par le dandysme et cultive son apparence. Imaginez-le. Chaque matin, ce magnifique jeune homme longiligne, yeux bleu-gris, aux boucles de cheveux auburn et à l'allure sensuelle, monte...
Vous vous décrivez vous-même, Stéphane.
Ah, pas du tout, non, beaucoup moins bien que lui. Monte à cheval, coiffé d'un chapeau blanc, d'un manteau gris clair et de gants en peau de chevreau perlé. Ce look très raffiné, Lord Byron le façonne depuis quelques années, après avoir été un ado rondouillard. Il devient obnubilé par son poids et perd de nombreux kilos. Les femmes et les hommes ne restent pas insensibles à sa beauté envoûtante. Lui qui a grandi dans un milieu pauvre hérite à sa grande surprise par un grand-oncle d'une fortune colossale. Il a 21 ans, s'installe alors dans le quartier de Piccadilly. L'étudiant fortuné dépense son argent sans compter, en fête auprès des femmes de petite vertu et évidemment en alcool. Ces mois passés à Piccadilly résument bien la personnalité de Lord Byron et son rapport avec l'alcool. Il est capable de s'en passer pendant un long moment, se pliant à une discipline de fer, et puis, tout à coup, dans un accès d'euphorie ou de mélancolie, il plonge dedans, les yeux fermés, et en avale des litres, sans aucune modération. Pour Byron, l'alcool est associé à la sexualité.
Alors que souvent, pourtant, on est moins performant avec l'alcool. Je ne sais pas vous, mais enfin, personnellement, il faut la modération. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais pratiqué. Enchaîné.
Au bout de 3 mois, lassé par cette vie de débauche, il revient s'installer au Trinity College. Un brin provocateur, il est accompagné de sa maîtresse, de 2 amis et d'un ours qu'il a sauvé des mains d'un dompteur.
Non.
Les animaux comptent énormément pour lui. Quand l'un de ses chiens, son Terre-Neuve, meurt, Byron sombre dans une profonde dépression et demande même à être enterré à ses côtés. Il fait construire un caveau pouvant contenir 2 cercueils.
Un petit côté macabre quand même, hein, ce Byron.
Attendez la suite. Alors que son premier recueil de poèmes, Heure d'oisiveté et descendu par la critique, Lord Byron décide de quitter ce pays, l'Angleterre, qui ne l'apprécie pas. Mais avant, il organise une soirée de départ, un immense festin dont ses proches se souviendront longtemps. À l'image des bacchanales romaines, ses amis se délectent de mets délicieux tandis que des courtisanes sont invitées pour distraire ces jeunes diplômés de Cambridge.
Qu'entendez-vous par distraire ?
Vous l'imaginez bien. Mais Lord Byron tient à apporter à ce tableau sa touche mystérieuse, sombre. Le maître des lieux est déguisé en abbé, une crosse à la main, et déclame des vers qu'il a gravés sur un crâne humain. Un crâne déterré par son jardinier et que le jeune Byron a eu l'idée morbide de faire monter en coupe par un orfèvre joaillier. Tellement créatif que c'est dans ce crâne que le poète déguste avec ses amis de délicieux nectar. Lord Byron récite alors « J'ai vécu, j'ai aimé, plaisanté comme toi, je suis mort, que la terre abandonne mes os, remplis, ami, tu ne peux me faire aucun mal, les vers ont des lèvres plus affectueuses que les tiennes. Je vous laisse quelques instants, je dois aller siroter un breuvage dans un crâne sculpté. Je vous raconte la suite de sa liaison avec l'alcool juste après. »
Historiquement vôtre. Dans un instant, sur Europe 1, Mathieu Noël et Stéphane Bern reviennent pour la suite du récit. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, avant la pause, Stéphane nous racontait comment, alors qu'il n'a que 20 ans, le poète Lord Byron sombre déjà dans la mélancolie et s'abandonne, ma foi, au plaisir de fêtes gothiques où il boit du vin dans des crânes humains. La suite du récit sera, j'espère, tout aussi barrée, mais peut-être un peu plus joyeuse, Stéphane.
Joyeuse, je ne sais pas, mais rocambolesque, assurément. Lord Byron quitte donc l'Angleterre où son talent n'est pas reconnu à sa juste mesure. Portugal, Espagne, Albanie, Constantinople, oh, son périple lui permet d'écrire ses plus beaux poèmes. Il semble moins morose qu'en Angleterre quand il arrive à Athènes, où cette fois l'alcool est synonyme de bonheur retrouvé. Lord Byron s'installe pendant un an dans un monastère au sommet de l'Acropole. Malgré l'aspect sacré des lieux, des réunions politiques sont organisées clandestinement et le poète découvre une vie cachée derrière les murs saints. Il fait la connaissance de jeunes Grecs peu farouches.
Qu'entendez-vous par peu farouches, Stéphane ?
Souvent à peine majeurs, ces éphèbes sont en quête d'expériences inédites, de sensations fortes décuplées par l'alcool. Le vin est omniprésent, Byron n'est pas le dernier à s'en délecter. C'est lors d'une de ces soirées licencieuses qu'il fait la connaissance, et tombe amoureux, de Niccolo Giraud, un élève de l'école du chant du monastère. Les deux hommes deviennent inséparables. Grâce à lui, Byron apprend l'italien, son jeune amant, parlant couramment la langue. Byron est apaisé pour la première fois depuis longtemps.
Il y a quelque chose qui vous fait rire, là, Stéphane ? Qu'est-ce qui...
C'est l'apprentissage des langues.
Ah, l'apprentissage des
langues,
bien
sûr. Il se confie dans une lettre à un ami. « Vive l'amour ! Je traduis les prières du livre de messe, mais mes leçons sont interrompues par des gambades. On mange des fruits, on se jette sur les écorces, on joue. » C'est charmant.
Oui, derrière ce « joue », il y a beaucoup de choses, certainement.
C'est là que... Ne rabaissez pas tout,
ah, je ne rabaisse pas tout, c'est vous qui avez cette étincelle de lubricité dans le regard.
Mais pas du tout.
Vous me regardez,
tout
vous me lancez des œillades.
Tout ça, à mon avis, était très chaste.
Ah oui, très, oui. Ouais. Vu le bonhomme qui boit dans des crânes humains, je pense qu'effectivement, ça devait être... Il devait avoir effectivement une sexualité assez chaste. Lui.
On joue, mais c'est là, voyez-vous, Mathieu, que Lord Byron contracte la malaria.
Ah bah oui, bah ça. qui s'y frotte, s'y pique. Hein
bon. Au printemps 1811, la mort dans l'âme, il se résout à quitter la Grèce. Pour les deux amants, c'est un déchirement.
Mais il a qu'à l'amener, son Niccolo.
On raconte même que sur le bateau, le poète tient dans sa main une fiole de ciguë et l'idée de la boire et de se suicider lui traverse peut-être l'esprit. Son retour en Angleterre est un désastre. Il est obligé d'en partir définitivement en 1816. Alors que le pays découvre sa liaison avec sa demi-sœur, Augusta, une relation incestueuse qui aboutit à la naissance d'un enfant. Inconcevable dans une Angleterre aussi puritaine.
Inconcevable tout court, Stéphane, hein, je précise, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas des mœurs aussi libres que les vôtres.
Ce ne sont pas mes mœurs.
Je, sais pas, vous
je vous raconte l'histoire de Lord Byron.
Je vous sens très proche de ce Lord.
Non, je lui reconnais une grande qualité, c'est qu'il a participé à la naissance de la Grèce indépendante, c'est vrai.
Hein. Oui, mais ça, on est très loin de ce qu'on raconte là. Oui, il a effectivement.
Oui,
il a servi à quelque chose, c'est ça que vous voulez nous dire.
Voilà,
il s'est aussi tapé sa sœur et il lui a fait un gosse. C'est quand même borderline. C'est borderline, Stéphane.
C'est vrai.
On ne peut pas cautionner ça.
On ne peut pas
cautionner
ça. Je ne l'aurais personnellement jamais fait.
Ne faites pas ça chez vous. Ne vous tapez pas votre sœur. C'est mal.
Demi-sœur. de nous...
Ah non Stéphane, ça ne marche pas comme ça, ça n'atténue pas. Même une demi-sœur, ne vous tapez pas votre demi-sœur, c'est très important.
Je crois que les gens ont compris, Mathieu.
Mais,
de nouveau, sans patrie, Lord Byron s'installe un temps à Venise, au Palazzo Mocenigo. Byron y crée un temple de la débauche. Pas un jour ne se passe sans que des femmes vénales aux mœurs légères, ainsi que de jeunes hommes au charme latin, s'y promènent. L'alcool coule à flot. Byron devient un boulimique de sexe insatiable. Il demande même à ce qu'on lui envoie de Londres plus d'argent. « Je le dépenserai pour copuler aussi longtemps qu'il me restera un testicule », écrit-il.
Quel poète.
C'est
là qu'on voit que... Quand
c'est
même.
Dans cette ambiance moite et charnelle qu'il compose Don Juan, ambitieux poème de 16 chants. Son œuvre maîtresse la plus personnelle, celle qui sera sa dernière aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler de ce poète qui a marqué le siècle et parfois aussi un peu salopé des moquettes, nous accueillons notre invité qui a un nom de magicien, mais qui ne l'est pas du tout, ou alors peut-être, on ne sait pas. Bonjour Daniel Salvatore Schiffer.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, vous êtes philosophe et essayiste spécialiste du dandysme et auteur d'une biographie au titre simple et explicite, Lord Byron, paru aux éditions Gallimard. Si vous aviez dû donner un sous-titre à sa vie dans votre biographie, vous auriez dit quoi en premier ? Le dandy, le génie, le dépravé ou les trois à la fois ?
Les trois à la fois, mais surtout le génie. C'est vraiment le génie. Si j'avais dû donner un sous-titre à cette biographie de Lord Byron, j'aurais dit libre, libertaire et libertin.
C'est joli. On va parler dans un instant avec vous, Monsieur Salvatore Schiffer, de l'homme raisonnable doit se saouler, a écrit Lord Byron. Le meilleur de la vie n'est que l'ivresse. C'est vraiment dans le thème
du
jour.
Et on a envie de connaître la réponse.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, on parle de ceux qui aimaient bien lever le coude ou tendre la main pour servir un petit verre, puis un deuxième, puis un troisième. Bref, c'est à boire qu'il leur faut, c'est notre thème du jour. On continue de parler de Lord Byron en particulier avec notre invité Daniel Salvatore Schiffer sur Europe 1. En quoi l'alcool, justement, alors je citais évidemment Lord Byron, l'homme raisonnable doit se saouler, le meilleur de la vie n'est que l'ivresse. En quoi les fêtes charnelles et lubriques et alcoolisées ont été bénéfiques pour l'œuvre de Lord Byron ?
Lord Byron, comme beaucoup de grands romantiques, avait l'esprit très mélancolique. C'était un grand mélancolique avec des pics de désenchantement et de désespoir, et l'alcool l'aidait à sortir de cette noirceur. Il faut faire attention avec Byron, parce que Byron était un poète, il aimait beaucoup les métaphores. Et quand il parle d'ivresse, il ne veut pas nécessairement dire l'ivresse par l'alcool. L'art est une ivresse, la poésie est une ivresse. C'est une manière de sortir de la monotonie de l'existence, du quotidien, de l'ennui, du spleen, pour accéder à un monde supérieur, une espèce de transcendance profane que l'on a à travers le plaisir, qui peut être le plaisir sexuel, le plaisir de l'alcool ou le plaisir de l'art,
oui,
singulièrement de la poésie, bien sûr.
Mais évidemment, tout cela peut-être choquait déjà au XIXe siècle et continue de nous choquer. Même Mathieu Noël, qui n'a pas des oreilles aussi chastes que moi, tout de même était un peu choqué par la vie.
Oui, ça va loin.
Ça va loin quand même.
Il s'est quand même tapé sa demi-sœur. Moi, je comprends pas trop sa sexualité. Il était complètement bisexuel ou c'est une...
Il était complètement bisexuel. D'accord. Alors, sa demi-sœur, ils ont... Lord Byron et Augustin ont le même père, mais pas la même mère. Donc, ils n'ont pas été élevés ensemble. Et quand Byron voit pour la première fois dans un cocktail très mondain à Londres, sa demi-sœur, il ne sait pas que c'est sa demi-sœur. Il voit que c'est une femme éblouissante, il lui compose un poème, She Walks in Beauty, c'est un des plus beaux poèmes de Byron, elle marche tout en beauté, mais il ne sait pas que c'est sa demi-sœur, parce qu'ils n'ont pas été élevés ensemble, ils ne se sont pas connus lorsqu'ils étaient enfants, il en tombe follement amoureux, elle sait que c'est Byron, elle l'appelle My Baby Byron, mais bon, voilà, il en tombe amoureux, il ne peut pas faire marche arrière, il l'installe carrément chez lui. Byron, à l'époque, est marié, et il l'installe chez lui et il couche avec elle pratiquement devant les yeux de sa femme.
Justement, pour conclure, est-ce que vous pensez pas, il y a une de ses nombreuses maîtresses, son amour jeunesse, Caroline Lamb, disait que Byron était fou, mauvais et dangereux à connaître. Est-ce que pour vous, ça...
Est-ce que c'est un sale type?
En tout cas, il n'était pas très correct, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme avec les dames, avec les femmes. Il était très mufle avec les femmes, mais sauf sa demi-sœur, Augusta, qui est la femme qu'il a le plus aimée.
Je rappelle, Daniel Salvatore Schiffer, que vous êtes le biographe donc, de Lord Byron aux éditions Gallimard, et que vous publierez au printemps prochain l'ivresse artiste, double portrait Baudelaire et Flaubert pour les 200 ans de leur naissance. Et figurez-vous que Byron était l'écrivain préféré de Flaubert. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous l'avez compris aujourd'hui, c'est à boire qu'il leur faut dans Historiquement vôtre. Tout à l'heure, je vous raconterai le destin, un poil alcoolisé, de l'ancien Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill.
Mais avant ça, Stéphane, que se passe-t-il dans les coulisses de l'histoire? C'est la question qui me taraude, qui vous taraude peut-être. Stéphane Bern le sait, il sait tout. Le problème, c'est qu'il ne veut pas le dire, car il ne veut pas s'attirer les foudres d'amis parfois très haut placés. Souvent, hors antenne, il part sur un potin croustillant, puis soudain...
Vous enregistrez pas, là, quand on parle du roi du Maroc?
Clémentine Portier-Kaltenbach, elle n'a pas de ces pudeurs de gazelle. Elle y va franco, chaque jour, elle nous invite...
franco, là-dedans.
On verra. Elle nous invite dans l'intimité de l'histoire, à tout de suite.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est avec joie et ravissement que nous vous accueillons dans Historiquement vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter.
Historiquement vôtre, oui, basson plein, Stéphane. Une expression que peut-être un jour, d'ailleurs, vous nous expliquerez en fin d'émission. Pour l'heure, regardons plutôt sous les jupes de l'histoire. Grâce à celle, Stéphane, qui chaque après-midi nous permet de nous faire plaisir.
Sans même avoir à baisser son pantalon, eh oui.
Oui, oui. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour les garçons. Mais alors pour aujourd'hui, vous vous trompez de A à Z, parce que moi j'estime que vous... vous évoquez des joyeux cocos qui festoient à longueur de vie et qui boivent. Eh bien moi, j'ai choisi d'évoquer un mangeur aujourd'hui, mais un mangeur absolument unique en son genre. Il s'appelait Charles Hippolyte de Labussière. Est-ce que cela vous dit quelque chose, messieurs? Né en 1768, mort en 1808. Eh bien, sachez que ce Labussière fut jugé assez intéressant pour que l'auteur dramatique Victorien Sardou lui consacre en 1891 une pièce de théâtre intitulée Thermidor et pour que ses excès de table très particuliers soient évoqués dans le Napoléon d'Abelganse, le film de 1927 que pour le coup vous avez vu.
Oui, c'est la grande bouffe, c'est quoi un peu ça?
Alors je vous explique, qui est ce Labussière? C'est un comédien de second ordre, bon, il joue un peu les albalétriers dans les pièces de théâtre et dans les heures les plus incertaines de la Révolution, il faut gagner sa vie, puis il faut se mettre à couvert, eh bien il trouve un emploi sûr en devenant en avril 1794 commis aux écritures au comité de salut public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en somme, il travaille au quartier général de la Terreur. Et son emploi consiste à enregistrer les pièces accusatrices. Donc, après être passé entre ses mains, les documents sont transmis au président du tribunal révolutionnaire, à l'époque le terrible Fouquier-Tinville, qui fait arrêter les suspects, les met en jugement et les envoie à la guillotine. Alors, Labussière, horrifié par toutes les exécutions auxquelles il contribue quotidiennement par sa tâche de gratte-papier, se met en devoir de déchirer, de mâcher, puis d'avaler tous les documents que son estomac sera en mesure d'accueillir. Entre mai et juillet 1794, donc en 3 mois, Labussière, tenez-vous bien, aurait réussi à soustraire 1153 dossiers à la justice révolutionnaire. 1153 personnes qui, grâce à lui, auraient été oubliées dans leur prison. Et notamment 6 sociétaires de la Comédie-Française, la célèbre Madame de Villette, la nièce de Voltaire, l'oncle de Talleyrand ou encore Madame de Lafayette. Il leur a sauvé la vie en mangeant leur dossier. Alors,
Il n'a pas forcément mangé.
En fait, comme il ne pouvait pas les brûler ni les sortir, il les mettait à tremper, il les pétrissait, il les transformait en petites galettes, il les cachait dans son habit. Et quand il sortait du bureau, en somme, il se rendait, il était tout près de la Seine, puisque le comité de salut public était installé dans le Louvre, il se rendait au bain public en bord de Seine et il faisait disparaître le corps du délit qu'il émiettait entre ses mains. Voilà. Et l'acte héroïque de Charles de Labussière est attesté par de nombreux documents. Il y a un article publié sous le consulat qui va contribuer à attirer cet obscur héros de l'oubli où il avait sombré. Et les comédiens français, émus parce qu'il était un peu dans la débine, le malheureux Labussière, organisent une représentation à son bénéfice en avril 1803 en présence de Joséphine et de Bonaparte. Bon, alors malheureusement, notre papivore va dilapider rapidement le produit de cette soirée. Et en 1808, il meurt oublié de tous, victime d'une violente attaque de paralysie. Mais enfin, reconnaissez que c'est une étrange histoire et à la fois la triste fin d'un curieux gastronome dont les excès de table ne furent en somme que des excès d'humanité.
Bravo, c'est beau.
C'est beau et c'est un personnage du sort que vous ne connaissiez pas, Stéphane.
Non,
vous n'êtes pas bon sur les personnages de la terreur. J'ai l'impression qu'il y a une période de l'histoire que vous avez quelque part refoulé.
Ah non, mais c'est faux qu'il est un vil, mon héros. En tout cas, merci Clémentine. Ouais. Restez avec nous, c'est l'heure de la confrontation que la France entière attend depuis la terreur. C'est le quiz.
Et oui, Stéphane, c'est le quiz. On peut comprendre que vous soyez fébrile. Je vous sens, je vous sens tremblant. Oui. Les chiffres, que cela dit, vous maîtrisez mal, parlent d'eux-mêmes. En 17 confrontations, 6 matchs nuls, 8 victoires de Clémentine et donc seulement 3 victoires pour le plus lettré des poseurs de véranda. Stéphane Bern lavera-t-il l'affront aussi bien que le carreau? Réponse tout de suite sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui d'une main vous cultive et de l'autre vous chatouille. Je vous laisse deviner quelle main fait quoi, sachant que je présente cette émission avec Stéphane Bern. Tout va bien Stéphane?
Impeccable, monsieur.
Eh bien, ça ne va pas durer, car voici ce moment que vous adorez, le quiz, qui vous oppose chaque jour à Clémentine Portier-Kaltenbach pour voir si vous êtes vraiment bon ou pas en histoire. Alors je sais que vous commencez à l'avoir mauvaise, de perdre tout le temps, mais de grâce, c'est pas la peine de vous énerver contre Clémentine et surtout, pas d'attaque sur l'âge. Par exemple, hier, Clémentine avait une minute de retard dans le studio, vous m'avez dit l'écume aux lèvres.
Elle est où, Nefertiti?
Non, là, ça, Stéphane, ça, une deuxième fois, c'est éliminatoire. Tâchons d'être fair play. Jouons à Born to be Alive. Vous connaissez le principe de ce
bien
jeu.
Bien sûr, oui. Qui a révolutionné
des questions
qui n'ont rien à voir avec l'histoire.
Des questions éminemment historiques et des réponses de qualité, s'il vous plaît. Stéphane, oui. Première question pour vous. On connaît le club français, enfin, je le connais, parce que vous, je ne suis pas sûr, le club français de foot de Guingamp, créé en 1912. Eh bien, la devise de la République de Singapour, c'est « En avant Singapour ». Vrai ou faux? En avant Guingamp, en avant Singapour.
Vous n'avez pas Wikipédia.
c'est pas l'idée d'un quiz, si vous voulez.
Je crois pas, non.
Vous ne croyez pas?
Non, je crois
c'est
pas.
Une mauvaise réponse, Stéphane.
Moi, j'aurais dit oui.
Majula Singapura.
Majula. Ah, voilà,
Majula. Majula, je veux dire en avant Singapour.
Ça fait un peu mille ans. Vous savez, comme Banzai, il faut croire que
c'était planté
en Asie,
sur
on aime
Banzai
bien un truc assez dynamique.
Banzai, vous aviez
en plus trouvé, Stéphane.
Mais pour une fois, l'histoire s'en souvient. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Également une question devise. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France, mais aussi d'Haïti. Vrai ou faux?
Je pense que c'est tout à fait possible, car je me demande dans quelle mesure ça n'est pas précisément un Haïtien qui aurait exigé et obtenu que l'on ajoutât égalité à cette devise en trois parties. Donc je pense, ou ça pourrait être Toussaint Louverture, donc je dirais oui.
Elle dirait oui, Stéphane. C'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach. Haïti appartenait à la France jusqu'en 1825. La devise de la France a de nouveau été adoptée dans la Constitution haïtienne de 1987. Je n'ai pas de détails sur votre raisonnement, sur est-ce qu'ils ont ajouté égalité ou pas, et si Bruce Toussaint Louverture était là ou
c'est
pas.
C'est ça qui est bien, c'est que vous êtes incapable de vérifier.
Je suis incapable.
Elle affirme des choses avec un
tel. Bien sûr, bien sûr.
Et comme on n'a pas Wikipédia.
J'esbrouf.
Stéphane, on dit parfois qu'on a une drôle de tronche parce que Monsieur Tronche a vraiment existé. C'était sous Louis XIV, vrai ou faux?
Je ne crois pas.
Il veut vous emberlificoter avec les binettes, là. C'est la binette.
Non.
Les godillots et compagnie.
C'est faux, Stéphane. C'est-à-dire que vous avez une bonne réponse.
Oui.
Mais par contre, Monsieur Binet a existé.
Voilà, bien sûr. Bah voilà,
alors c'était qui, Monsieur Binet, si vous êtes si malin?
Le créateur des perruques.
Oh, c'est vraiment... celui le coiffeur de sous Louis XIV.
Oui, c'est la base, ça. C'est la base,
et
Mathieu.
Les perruques Binet coûtaient plus de 1000 écus. Elles étaient parfois fort extravagantes. Du coup, il arrivait qu'on ait une drôle de Binet. Voilà d'où vient l'expression.
Qu'on se casse la Binet, surtout.
Qu'on se casse la Binet, oui. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le premier homme sur la Lune était américain. Le premier engin à se poser était russe. Mais la première sonde à se cracher sur la Lune était chinoise. Vrai ou faux?
Faux.
Vous êtes sûr de vous?
Non.
Mais c'est faux, et c'est une bonne réponse de Clémentine.
Bravo!
Il était russe aussi. Le premier survol et le premier crash se fait en 1959. La première sonde spatiale à se poser, 1966, premier pas de l'homme.
69.
Un point sup... Non. Mais vous n'avez pas été très vif, Stéphane, sur cette réponse-là.
Non, mais attendez, vous posez des questions, mais le reste, on vous laisse faire votre show.
Oui, bien sûr. Question numéro 5, attention, elle est pour vous deux. Vous savez, c'est la question de rapidité,
oui,
avec trois choix.
Sûr.
Alors... 17 octobre 1814, drame à Londres. 8 personnes sont mortes. Que s'est-il passé? 3 propositions. On a fait des essais de pêche électrique sur la Tamise. il y a eu une inondation de bière où la gelée anglaise est inventée et goûtée.
La bière, inondation
une
de bière.
Une inondation de bière.
Inondation de bière, oui. Vous verrez ça comment, une inondation de bière.
Qu'est-ce qui se passe, Stéphane ? C'est-à-dire sur les docks, vous voyez, sur les docks, par exemple, il y a eu une brasserie qui a voulu... Les réserves de bière ont percé.
Donc c'est forcément ça, Stéphane, parce que 1814, il n'y a pas d'électricité, on ne fait pas de pêche électrique. Donc c'est l'inondation de bière.
Il y aurait pu y avoir une pêche électrique en même temps que l'inondation de bière. Et là, ça aurait créé...
Et comme j'ai répondu plus vite...
Il a répondu plus vite. Une victoire de Stéphane Bern, effectivement. Une inondation de bière. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Le réservoir d'une brasserie se brise. 3500 barils de bière provoquent cette inondation. Ça détruit deux maisons et tue 8 personnes. Ah, et oui, parce que... Je pense qu'il y a des gens qui vivaient en entresol, parce que c'est pour ça, sinon on ne peut pas mourir d'une inondation de bière. Et voilà, une mort.
Il y a des souplexes.
des souplexes, voilà. Égalité dans ce quiz, une fois de plus. Je dois dire, Stéphane, que vous remontez la pente. Vous n'arrivez pas encore à gagner totalement. Ça sera dans une, peut-être mi-avril, mi-mai, nous arriverons à une victoire de Stéphane, mais c'est déjà bien joué.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, deux heures pour s'amuser de l'histoire autour de trois personnages que les siècles séparent, mais qu'une passion relie, ou plutôt aujourd'hui, qu'une boisson relie. Ils aimaient tous un peu trop la bibine, Stéphane.
Oui, Mathieu, ou plutôt du whisky pour lui. Ah oui. Parce que après Lord Byron, on va rester en Angleterre. Visiblement, il y a là-bas des spécialistes. Je vous parle maintenant de l'ancien Premier ministre, Sir Winston Churchill.
Et plus proche de nous, Stéphane, il est l'antithèse, hélas, imparable de toutes les campagnes contre l'alcoolisme, puisque même en buvant beaucoup, il joue mieux que n'importe quel autre acteur sobre. Je vous parlerai évidemment de Gérard Depardieu.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre, l'émission où l'on vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter.
Ah oui, Stéphane, chaque après-midi, on vous promène de siècle en siècle à la rencontre de trois figures de l'histoire très différentes sur le papier, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, trois légendes, le mot n'est pas trop fort, un poète, un homme d'État et un acteur, unis par une passion.
Un pastis bien frais. Ouais, en bistrot, tu fais mal.
Pardon, Mathieu, mais je ne suis pas sûr que Lord Byron, dont nous avons parlé, buvait beaucoup de pastis. Quant à Winston Churchill, dont je vais à présent vous faire le portrait, il préférait clairement le whisky. Mais il y aura, comme d'habitude, un troisième personnage dans notre émission dont vous nous brosserez, cher Mathieu, un portrait qui sera vrai à peu près à 99%.
99%, un chiffre qui doit justement faire rêver notre troisième personnage du jour. Lui aussi peu enclin à s'hydrater bêtement à l'eau. Il s'agit de Gérard Depardieu, acteur de génie dont nous évoquerons le côté dionysiaque sans jamais lui jeter la pierre. Qui serions-nous pour le faire ? Ça arrive à tout le monde d'être bourré. C'est pas si grave. Comme je dis souvent à Stéphane, le tout c'est que ça s'entende pas à l'antenne.
John Fitzgerald Kennedy.
Oui, bon, là, ça s'était un peu entendu par Stéphane, vous ferez gaffe quand même.
Oui. Au programme, jusqu'à 18h également, pour découvrir comment le passé influence notre présent, notre façon de parler ou même de cuisiner.
Yvette Horner, elle sera là.
Non,
elle sera
c'est
là
les papis de la nation avec Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, qui nous raconte l'histoire du baba au rhum. Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre. Le récit.
Absolument. Sir Winston Churchill attaque dès le matin avec du vin blanc et du whisky and soda, une habitude prise aux Indes. Au déjeuner, c'est vin et digestif. Et le soir, c'est entre autres du champagne. Winston Churchill était-il alcoolique ?
Bah oui, vous venez de nous le dire.
Les avis s'opposent. Quoi qu'il en soit, dépendant ou pas, vous allez voir que la vie de l'ancien Premier ministre britannique est étroitement liée à ses boissons favorites. Quand on demandait à Churchill comment il faisait pour avoir une telle énergie, il répondait
« Le secret de ma vitalité, je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette tous mes globules blancs. »
C'est un fait. Churchill, surnommé le vieux lion, meurt à 90 ans. Il n'a jamais caché son amour pour le cognac, le cointreau, le porto, les vins, le whisky, évidemment.
Il aime tout, en fait.
Le champagne. Son penchant pour l'alcool n'altère en rien son incroyable boulimie de travail. Bien au contraire, c'est même un carburant presque indispensable à sa réussite. Sa rencontre avec l'alcool, le petit Winston, garçon joufflu aux bouclettes rousses et aux poumons fragiles, a lieu dès sa plus tendre enfance. Ses parents, Randolph Churchill, ministre des Finances un temps, et sa femme, Jenny Jerome, fille d'un millionnaire, organisent régulièrement des bals, des dîners dans leur très belle demeure. Vous savez, il y avait Blenheim Palace, merveilleux palais. Parmi les invités prestigieux de cette fin du XIXe siècle, le prince de Galles. Et évidemment, l'alcool ne manque pas. Confié à une nurse les premières années de sa vie, une fois inscrit à l'internat, il sombre régulièrement dans la dépression. La raison est simple, ses parents, trop occupés par leur carrière et leurs soirées mondaines, se montrent très distants avec lui. En 6 ans d'internat, sa mere, par exemple, ne lui a rendu que 8 visites.
Bon, forcément qu'ils se mettent à la boisson.
Dans ses lettres, son père le tense régulièrement. « Tu deviendras un simple rebut de la société, l'un de ces innombrables ratés qui sortent de public schools et tu t'avachiras dans une existence minable, malheureuse et futile. »
Raté.
Dès son adolescence, Winston noie alors son chagrin dans l'alcool et cigarettes, mais se jure de rendre un jour son père fier de lui. Il n'en aura malheureusement pas l'occasion. Randolph Churchill meurt en 1895 d'un autre excès. De la syphilis.
Ah, bah tiens, il n'était pas blanc-blanc, hein, le père Churchill.
Ah, bah les parents vous donnent toujours des leçons, mais enfin eux-mêmes. Hein. La même année, Winston Churchill s'envole pour Cuba. Il a 25 ans, jeune reporter. Il est passionné par cette guerre d'indépendance. Il en revient avec un goût immodéré pour les cigares. L'un d'entre eux, le double Corona de 19 mm, porte désormais son nom. Et bien sûr, l'alcool. C'est là-bas qu'il découvre notamment le Roncotelle. Un cocktail au rhum.
Je ne connais pas ça. Connaissez-vous,
Stéphane ? Non, je n'ai jamais goûté. J'aime pas tellement le rhum.
Ah bon ? Je note.
Toute sa vie, Churchill est attiré par les théâtres d'affrontement. Étrangement, il s'y sent plus vivant que jamais. Aux Indes, au Soudan et surtout en Afrique du Sud. Il s'embarque en 1899 et hors de question pour lui de voyager léger. 32 bouteilles de vin des secs, 1877, 18 de Saint-Émilion, 10 de vieux scotch, 12 de cordial au citron vert, 6 de Porto Blanc, 6 de vermouth français et 6 de très vieille eau de vie de 1886. En Afrique du Sud, Churchill écrit pour des journaux et il est grassement rémunéré l'équivalent de 41 000 euros pour 4 mois quand même.
Ça payait bien la presse écrite à l'époque. Ça a changé.
C'est mort. Capturé, il parvient à s'échapper. Certains disent que pour retrouver la liberté, il aurait notamment soudoyé des Sud-Africains avec des bouteilles de whisky.
Je n'ose le croire, pas Winston.
Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, il demande à faire les tournées d'inspection sur le front. Il aurait dit alors... C'est que toute consommation d'alcool était interdite au QG du bataillon. On ne pouvait y boire que du thé fort avec du lait condensé, une boisson particulièrement répugnante. Dans les tranchées, par contre, on était nettement plus souple.
Vous faites bien, Churchill, un peu bourré.
L'alcool accompagne Winston Churchill dans chaque étape de sa vie.
Ah ouais.
C'est difficile à dire, dans chaque étape de sa vie, surtout quand on est
sobre. Quand on a préparé l'émission en se mettant dans les conditions, c'est-à-dire.
Mais c'est dans son immense carrière politique qu'elle a tenu un rôle de premier plan.
Là, c'est le moment où vous allez prendre votre tea time, Stéphane.
Oh non, pour faire honneur à Winston, je m'en vais boire avec modération une petite lichette de Cointreau. Cheers.
Historiquement vôtre. Dans un instant, Mathieu Noël et Stéphane Bern reviennent pour la suite du récit. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue. Chaque jour, 3 personnages, 1 point commun. Et aujourd'hui, la savoureuse triplette Lord Byron, Winston Churchill, Gérard Depardieu, leur cri de ralliement.
C'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train. C'est le bon vin qui nous met tous en train.
Stéphane Bern nous racontait le destin éthylique de Winston Churchill, un destin où alcool et politique se sont mêlés, voire emmêlés. Mais comme un bon vin, la carrière politique de Churchill n'aura de cesse de se bonifier avec le temps.
Absolument, Mathieu. Député à 26 ans, ministre à 32, Premier ministre à 67 ans, Churchill devient l'un des hommes politiques britanniques incontournables de la première partie du XXe siècle. Son éloquence pendant ses discours, ses traits d'humour marquent à jamais ses collègues et l'histoire. Et son goût pour la boisson également. Alors qu'il se demande comment s'habiller pour un bal costumé, Nancy Astor, première femme élue à la Chambre des communes, lui lance « Allez-y à jeun, Winston, personne ne vous reconnaîtra ». Amateur d'humour, Winston est surtout un grand boulimique de travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il multiplie les voyages en Europe, mais pas seulement. Au Caire, en janvier 1943, le général Brooke, qui l'accompagne, écrit « Il était guère plus de 7h30 du matin ». Nous avions voyagé toute la nuit dans un confort rudimentaire, parcouru 4000 km en 11 heures de vol sans escale, et voilà le petit Churchill frais comme un gardon qui dégustait du vin blanc au petit déjeuner après avoir bu deux whisky et fumé deux cigares. Ce n'est un secret pour personne. Churchill boit du matin au soir. Ses amis s'inquiètent pour lui. Dans une lettre à sa femme, le politique se confie. « Lord Rothermere m'a proposé 2000 livres, l'équivalent de 100 000 euros aujourd'hui, si je renonçais à l'alcool pendant toute une année. J'ai refusé, car il me semble que dès lors, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. »
Mais Stéphane, pourquoi il y a un débat sur le fait qu'il soit alcoolique ou pas? Parce qu'il est la définition même de l'alcoolisme.
Oui, absolument. Absolument.
On est d'accord.
Vous connaissez cette phrase, une dame du monde qui était très laide, qui l'apostrophait. « Mais vous êtes saoul, monsieur le Premier ministre. Madame, vous êtes laide. Mais moi, demain, ça aura disparu.
» C'est horrible, il a vraiment dit ça?
Oui. Bon, enfin voilà, je m'égare de mon récit, je reprends. Winston Churchill est un hyperactif, il n'a pas le temps de lutter contre sa nature. En plus de la politique, vous savez, Mathieu, il excelle dans la peinture d'ailleurs. Ça se vend très bien, les peintures de Sir Winston. Et l'écriture de récits historiques.
Il a même été prix Nobel de littérature.
Mais absolument.
Mais bien sûr,
en 1953, cocorico, il s'adonne à ses activités artistiques en grande partie lors de séjours dans le sud de la France. Pour ses livres, il travaille de 22h à 4h du matin et impose ce rythme à ses 3 secrétaires et 6 assistants. Pour tenir la cadence, vous en doutez, il ingurgite des litres et des litres de whisky et de champagne. Il avoue joyeusement qu'il ne pourrait vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Mais cette démesure n'est évidemment pas sans conséquence. Après plusieurs accidents vasculaires, il s'éteint le 24 janvier. 1965, à 8h du matin, soit très exactement 70 ans, mois pour mois, jour pour jour, heure pour heure, après son père. Ont-ils enfin trinqué dans l'au-delà? L'histoire ne le dit pas.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Winston Churchill, monsieur No Sport, qui préférait les shots aux shorts, on accueille Benoît Frank-Balm, journaliste, auteur d'Ivresse, ces moments où l'alcool changea la face du monde, chez Lattès, un livre dans lequel il est forcément question de Churchill. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Benoît Frank-Balm. On l'a compris, Churchill avait des tendances plutôt dépressives. Est-ce qu'on peut dire que l'alcool, dans son cas, c'était un antidépresseur qui lui permettait de s'évader et puis de sortir de son costume aussi?
Oui, mais pour lui, c'était le meilleur des antidépresseurs. Il appelait sa dépression le Black Dog. Et ce chien noir, il le tenait en laisse grâce à l'alcool, ou whisky soda, avec le champagne Paul Roger aussi. Son docteur personnel, le docteur Lord Moran, a dit que Churchill avait coutume dans les gares de ne pas se tenir trop près des quais, car il avait peur de se jeter et d'avoir des pensées suicidaires.
Ah oui, à ce point. Oui. Donc l'alcool l'a beaucoup aidé. Alors justement, on va voir dans un instant avec vous, Benoît Frank-Balm, quel rôle a joué l'alcool dans son immense carrière politique.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Si vous tombez sur nous par hasard, sachez que le hasard, justement, n'y est pour rien. C'est le destin qui vous mène sur Europe 1. Chaque après-midi, Historiquement vôtre vous offre la possibilité de rentrer chez vous plus gai et plus instruit grâce à Stéphane Bern, mais aussi surtout à Benoît Frank-Balm aujourd'hui, auteur de Ivresse, ces moments où l'alcool changea la face du monde. Alors, on parle de Winston Churchill. L'alcool a joué un rôle politique, on peut le dire, dans la carrière de Winston Churchill. Sans alcool, il n'aurait pas eu ce destin-là. Ça paraît un peu fou de dire ça.
Déjà, en termes de politique intérieure, Churchill était protégé par le règlement des communes, le Parlement anglais, qui interdisait à un député de traiter un autre député d'ivrogne, de dire qu'il avait bu.
Donc, pratique pour lui.
On avait inventé des circonvolutions. Pour ça, on pouvait dire que vous étiez fatigué, que vous étiez émotif, mais pas que vous étiez, que vous aviez bu. Donc ça, que je pense, particulièrement servi Winston Churchill pendant sa carrière.
Mais il était, selon vous, il était alcoolique ou pas?
Oui, il est alcoolique.
Mais mais parce que les historiens débattent de la question. Est-ce qu'il était...
C'est là, si vous prenez du vin au petit déjeuner le matin, du champagne ensuite du whisky soda. Là, et
il y a une différence
entre
un sibarite, quelqu'un qui est un jouisseur de la vie, et un alcoolique.
Non, mais là, plus aujourd'hui, Stéphane.
On est dans l'addiction, là, clairement.
Ouais, on est dans l'addiction.
Ah oui, je pense. Oui, c'était vraiment du matin au soir.
Vous racontez dans votre livre un drôle de banquet en août 1942 à Moscou pour la deuxième conférence réunissant l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Oui, alors là, il arrive justement au cœur d'une tradition soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu avant. C'est ce que j'appelle les conférences diplomatiques flambées au vodka qu'organisait Staline. Donc, il débarque avec Sir Cadogan, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et le but est de demander aux soviétiques, qui leur donnent l'autorisation, d'ouvrir une offensive en Afrique du Nord. Alors déjà, il y a un petit problème de casting parce que Cadogan ne tient pas du tout l'alcool. Et pendant le banquet, il est attaqué sournoisement par Molotov. Molotov, dont
avec
Churchill...
son cocktail, ça c'est...
Oui, cocktail, non, cocktail qui ne se boit pas, effectivement, il est mieux évité. Et Churchill, dans ses mémoires, dit que Molotov force son admiration par sa capacité à porter longuement une longue suite de toasts convenus et dépourvus de sens. Donc, offensive sur Cadogan, qui ne tient pas du tout l'alcool, donc c'est une défaite pour la Grande-Bretagne, c'est un petit peu la honte quand même. Mais heureusement, le bulldog Churchill intervient, il a quand même 68 ans déjà à l'époque, et en pleine nuit, il s'invite dans les appartements de Staline, où se trouve aussi Molotov, et toute la nuit, il descend de cochon de lait et surtout bouteille de vodka à tire-larigot. Et au petit matin, c'est gagné, l'offensive en Afrique du Nord est validée, et Churchill peut repartir avec une nouvelle victoire diplomatique grâce à l'alcool.
Benoît Franck Balm, emmenez-nous avec Stéphane, on a très envie de visiter un pays qu'on connaît peu, c'est la Corée du Nord. Il paraît qu'en Corée du Nord aussi, les Kim...
Il n'y a rien à manger.
Ils picolent pas mal apparemment. Et la politique parfois un peu étonnante de Kim Jong-un serait liée à un penchant pour la bibine aussi.
Ah oui ?
Ce qui est sûr, c'est que quelques semaines avant de zigouiller son oncle, il a fait tuer deux des collaborateurs de son oncle. Et ce jour-là, il était complètement ivre quand il a donné l'ordre. C'est la presse japonaise qui nous dit ça.
Mais alors, vous dites aussi qu'il peut boire 10 bouteilles de Bordeaux en une seule nuit.
Il s'en vante.
C'est des bons crus, au moins ?
Ah oui, oui, je pense que malgré l'embargo contre la Corée du Nord actuellement, il peut encore importer de bonnes
bouteilles.
Écoutez,
moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même pour nos producteurs de vin bordelais.
C'est ce qui s'appelle voir le verre à moitié plein. Bravo Stéphane pour votre enthousiasme.
En tout cas, merci Benoît Franck Balm.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous venez de publier. Ivresse, ces moments où l'alcool changea la face du monde, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, notre spécial Cœur d'or et foie d'acier continue. 2 heures pour évoquer 3 figures de l'histoire qui ne carburaient pas au pulque au citron. Mais attention, si d'aventure le CSA nous écoute, il n'est pas question de faire ici l'apologie de l'alcool plus qu'aucun autre. Fréquentant Stéphane Bern depuis près d'un mois maintenant, je sais les ravages de l'alcoolisme. Je sais ce que c'est que de ramasser un camarade dans le caniveau à 5h du matin alors qu'il essaie de rapper comme Jules.
Comme celle à qui j'ouvre mon cœur et qui aura bientôt à cœur de me l'ôter, vais devoir lui dire qu'aimer... Ça fait mal, comme dire la vérité.
Stéphane, vraiment, lever le pied sur l'alcool. Simplement, cet après-midi, on essaye de comprendre l'impact de l'alcool dans les trajectoires de 3 géants. Stéphane nous a parlé de Lord Byron et de Winston Churchill. Pour ma part, j'évoquerai un personnage plus contemporain, mais tout aussi hermétique aux vertus du thé vert, Gérard Depardieu.
Puisse-t-il ne pas vous écouter, monsieur ?
J'espère surtout pour vous, c'est votre adresse que je lui ai filée.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre. 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. Vous l'avez probablement compris à ce stade. Tout dans Historiquement vôtre est dûment vérifié à 100%. Tout sauf la chronique de Mathieu Noël qui a obtenu une dérogation. Celle de placer dans son portrait 1% de n'importe quoi et quelques degrés d'alcool aussi. Après Lord Byron, Winston Churchill, aujourd'hui vous savez le thème c'est l'alcool évidemment dans la vie de nos personnages. Illustrez-vous Mathieu, vous parlez d'un troisième personnage beaucoup plus contemporain que les miens. C'est Gérard Depardieu.
Et oui. Je vois Stéphane dans votre regard à la fois concupiscent et filou, qu'on pourrait donc qualifier de concupilou, que vous espérez de moi un portrait moqueur de Gérard Depardieu. Vous allez être déçu, car c'est précisément l'inverse que je vais faire. Contrairement à la plupart de mes contemporains, je ne trouve pas Gérard Depardieu risible. Je nous trouve, nous, risibles, comparés à Gérard Depardieu. Nous, timides, timorés, politiquement corrects, pas toujours d'ailleurs par politesse ou respect de l'autre, mais par trouille de se prendre un nion de l'autre. Nous, policé, prudent, bien pensant, non pas pour ne pas offenser l'autre, mais souvent par simple peur d'être exclu d'une communauté rassurante où l'on se doit d'aimer l'écologie, la démocratie parlementaire et le quinoa, nouvelle sainte trilogie. Lui, Gérard, il vit la vie qu'on rêverait tous de mener. Pas au sens, bien sûr, qu'on ferait tous comme lui. En cas d'attente trop longue au décollage d'un avion, notre premier réflexe ne serait peut-être pas d'uriner dans une bouteille de Volvic. On n'irait peut-être pas non plus jusqu'à prendre la nationalité russe et faire des pubs où on bute des cerfs pour vanter les mérites d'une montre à quartz.
Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Grâce à Bacchusos, j'étais à l'heure. Et c'était son heure.
Ça, j'ai jamais vu.
Exceptionnelle pub que je vous recommande. Non, on ne rêve pas tous d'avoir la vie de Gérard Depardieu. Mais ce dont on rêve tous, c'est de vivre la nôtre avec le même panache que lui, sans aucun souci de ce que peuvent penser les autres. Pourquoi, par exemple, prendre des pincettes avec ses invités et leur dire de manière insipide, comme moi, ses fans, samedi soir,
Prendrez-vous, cher ami, un verre de Bourgogne? Quand on peut dire de manière à la fois plus conviviale et plus fleurie...
Je te sers un coup de pommard, ça rime avec Brachmann.
On est avec Gérard Depardieu dans la liberté la plus totale, peut-être même paradoxalement pour un homme qui urine dans des bouteilles en plastique, la plus noble. C'est très compliqué d'être ivre, ça demande une certaine sagesse, expliquait-il dans le Figaro en 2016. Complexité qui a d'ailleurs poussé Gérard à inventer un langage spécifique.
On canoche, ça vient du verbe canon, boire un canon.
On vit dans une société hypochondriaque, malade de la peur de l'être. Gégé, lui, vit chaque jour comme le dernier. 5 fruits et légumes par jour? Non. 30 grammes de protéines par heure? Oui. Une farandole calorique qui démarre dès le petit déjeuner.
À table, à table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Avec toujours ce sens du partage qui lui vient de l'enfance. Car l'histoire de Gérard commence en décembre 48 à Châteauroux, où il grandit parmi 5 frères et sœurs. C'est très jeune que naît sa première vocation, peu évoquée dans les biographies, celle de sage-femme. Gégé l'accoucheur se révèle en 1955 alors qu'il n'a que 7 ans. Sa mère s'apprête à donner la vie à sa petite sœur Catherine au milieu du salon. Durant tout l'accouchement, il reste aux côtés de sa mère avec, je cite, sa petite bassine d'eau chaude. Puis il raconte « Quand la petite tête apparaît, je fais comme dit l'infirmière présente ce jour-là, je tire avec elle. » Une expérience qu'il renouvela d'ailleurs un an plus tard avec la naissance de son frère Eric. Alors, sans jouer les doltos de Leader Price, accoucher 2 enfants avant l'âge de 10 ans en plongeant les mains dans l'utérus de sa propre mère sur le canapé du salon est-il le gage d'une construction psychologique saine? Les pédopsychiatres sont formels, c'est moyen bof. Enfant que nous qualifierons aujourd'hui d'hyperactif, Gérard quitte l'école à 13 ans pour se lancer dans la contrebande de cigarettes et d'alcool. Un ancien habitant de Châteauroux témoigne « Les policiers avaient peur de Gérard, il attaquait lui-même les flics qui faisaient des rondes. » Un surnom, vous savez, on dit souvent long, moi par exemple c'était Matounet.
Ah oui,
oui. Depardieu, lui, était surnommé Pétard ou Pétarou, pour son aptitude à flatuler en tout lieu et en toutes circonstances. Vous imaginez ses proches, Stéphane?
Ils sont fascinés.
Pas tout à fait. On va dire que Gérard ne s'est pas encore trouvé. Il s'essaye à la boxe, il devient apprenti dans une imprimerie, dans une imprimerie, et puis il monte à Paris pour prendre des cours de théâtre. Rencontre avec Agnès Varda et son mari Jacques Demy, chez qui il est babysitter pour gagner de l'argent.
Non.
Gérard Depardieu, babysitter, vous imaginez?
Buvons un coup de rouge.
Ses débuts au cinéma, il les fait avec Michel Audiard en 70, mais l'explosion survient en 74 avec Les Valseuses, un film qui fait scandale à l'époque et qui aujourd'hui nécessiterait tout simplement le placement en coma artificiel de Marlène Schiappa. En voici un extrait remasterisé, conformément aux règles du politiquement correct post-MeToo.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... quand on aura envie de...
Pour la filmographie complète de Gérard, je vous renvoie à Wikipédia. Ce qui est sûr et fascinant, c'est que Depardieu est bon tout le temps, dans les chefs-d'œuvre comme dans les navets. Il a en revanche un peu plus de mal à se trouver sur le plan spirituel. En 67, ému par la voix de la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, il décide de se convertir à l'islam. Ça dure 2 ans, le temps de réaliser que c'est pas une blague. L'alcool est vraiment proscrit par la religion musulmane, suite à quoi Gégé aurait déclaré « oui mais non ». Après un petit crochet par le bouddhisme, là en septembre 2020, donc ces derniers jours, il vient de se convertir au christianisme orthodoxe
russe. Vrai.
Il s'est même fait baptiser à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris, cérémonie qu'il a conclue par ces mots très forts, empreints d'une philosophie à la fois humaniste et fataliste.
« Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Ils ne peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. »
Marc Aurèle ne disait pas autre chose, Stéphane, même s'il le disait différemment. Politiquement aussi, Gégé se laisse difficilement étiqueter. Soutien de Mitterrand en 81, de Sarkozy en 2007, il a aussi été communiste. Son centre de gravité politique est flou, tout comme son centre de gravité tout court. Amoureux du deux-roues et du pinard et n'ayant jamais réussi à choisir l'un ou l'autre, Gérard collectionne depuis quelques années les gamelles à moto dans Paris, 8 en tout, dont la dernière fin août. Alors, me direz-vous, comment se fait-il qu'il ait toujours son permis alors que vous, si on vous arrête avec 2,5 g, c'est direct la saisie du véhicule? Eh bien, la réponse juridique est très très simple, Stéphane. Vous, c'est vous, et Gégé, c'est Gégé.
Vous voulez que je vous fasse buter en Corse?
Ah non, pas la Corse, Gérard, pas la Corse!
Non, mais attention, hein, parce que je connais beaucoup de monde au gouvernement.
Autant pour nous, Gérard, autant pour nous.
Alors circulez, circulez.
Alors n'essayez pas, hein, ça marche que si vous êtes Gérard Depardieu. Stéphane, je suis sûr que vous n'avez jamais été arrêté pour conduite en état d'ivresse.
Jamais.
Et je pense que vous n'avez même jamais été arrêté tout court.
J'ai été arrêté, mais on ne m'a jamais fait souffler dans le ballon, là.
Et pourtant, ils auraient eu des surprises. Ils auraient eu des
non,
surprises.
Mais je bois jamais avant de conduire. Alors, en tout cas, merci Mathieu, c'est incroyable. Tout ce, 99% c'était vrai.
Oui, il y avait 1% faux, c'est quand Gégé, il n'a pas dit oui mais non quand il a compris que les âmes interdisaient l'alcool. Tout est
mais
possible
vraiment,
pour
j'ai
Gégé.
Appris plein de choses. Hein.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous le savez, dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, on s'intéresse à tout ce qui, dans l'histoire, a un impact sur notre vie quotidienne aujourd'hui.
Absolument, Mathieu. Savez-vous comment est née la recette du baba au rhum?
Non.
Pas grave, vous savez, il y a Olivier Pouls. Vous connaissez l'origine de l'expression « pas folle la guêpe »
Non plus.
Pas grave, je suis là.
On m'avait dit que vous aviez le boulard, mais à ce point.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et maintenant vous allez goûter Historiquement vôtre.
Difficile de faire plus étranger à notre thématique du jour, les soifards de l'histoire, que le personnage qui entre en scène à présent. Rien que son rire délicat et discret vous permet de savoir qu'il s'agit là d'un homme qui ne connaît d'autre boisson que la tisane éléphant bleu rêve de miel. Il est notre spécialiste art de vivre. Chaque jour, il nous révèle l'origine inattendue d'une recette bien connue. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Rêve de miel, je ne la connaissais pas.
Vous connaissez pas de tisane. Hein. Je ne vous ai jamais servi de tisane, Olivier. Mmh. Aujourd'hui, vous nous parlez, non pas d'une boisson, dans notre spécial alcool, mais d'un dessert qui est néanmoins un petit peu alcoolisé.
Il fallait joindre l'utile à l'agréable, comme on dirait, puisque vous parlez des soifards. Moi, je vais vous dire que les soifards peuvent aller jusqu'au dessert pour épancher leur soif. Et je vais vous parler du baba au rhum, qui est un dessert qui a eu une période un peu has-been.
C'était tous les mêmes, en fait.
Et puis, je pense que c'était passé de mode.
Et là, ça
revient très, très fort avec quelques pâtissiers, notamment Cyril Lignac, qui en fait un très bon. Alors, savez-vous d'où vient le baba au rhum?
On va faire non. Pour que vous puissiez nous le raconter.
Mais non, d'où vient le baba au rhum, Olivier?
Il vient de Lorraine.
Mais non.
Ah, non.
Si, je vous assure. Est-ce que vous connaissez l'ancien roi déchu de Pologne, Ladislas Sliwiński?
Stanislas Lewinsky, le beau-père de Louis XV.
Exactement.
J'allais le dire.
Il était dans son château de Lunéville et il aimait manger alors soit des kouglof ou des gâteaux qui lui rappelaient son origine polonaise, des gâteaux polonais. Et c'était un peu dur. Et surtout, il avait des dents qui n'étaient plus en très très bon état.
Il avait des chicots pourris.
Et donc, son chef cuisinier, un certain Nicolas Storer, a eu une idée assez géniale, c'est qu'il aime imbibait ces gâteaux. Alors, non pas à l'époque avec du rhum, parce qu'il n'en avait pas à Nancy en ce temps-là, mais avec du vin, alors soit du vin de Madère ou du vin de Tokaj. Et du coup, ça rendait le gâteau beaucoup plus mou, beaucoup plus moelleux, et ça lui permettait de les manger.
Et ça marche avec tout, ça marche avec une vieille brioche qui commence à être un peu
Exactement. Et en fait, ce pâtissier qui était assez génial est parti à Paris, il a accompagné...
Il a accompagné Marie Lizinska.
Exactement.
Et il s'est installé rue Montorgueil.
En 1730, il ouvre à Paris, rue Montorgueil, une pâtisserie qui existe toujours, qui est la plus vieille pâtisserie de Paris, dans laquelle on peut encore aller manger des baba au rhum, figurez-vous.
Et donc, vous savez quelle est la dernière grande personnalité qui a demandé à aller, lors de sa visite à Paris, aller rue Montorgueil chez Storer?
Kim Jong-un.
Non, je pense que c'est un président.
Non,
est-ce que c'est pas un président américain?
C'est une dame qui porte des chapeaux.
Ah, c'est la reine d'Angleterre, exactement.
Geneviève de Fontenay. Je me serais vraiment ridiculisé. Heureusement que je ne l'ai pas dit. Hein.
D'ailleurs, si vous allez dans la boutique, vous verrez des photos de la reine d'Angleterre
qui a demandé
pour aller goûter...
Ce baba au rhum, en fait, le rhum n'arrive que 100 ans plus tard. C'est un descendant de Nicolas Storer qui, dans les années 1830, remplace le fameux vin de Madère par du rhum.
Et c'est bon avec du vin de Madère ou pas?
C'est plus sucré, mais c'est pas si mal que ça. J'ai deux minutes pour vous donner une petite recette.
On
est là pour ça. Alors, vous allez prendre 120 g de farine, 3 œufs, 50 g de beurre, 300 g de sucre, un petit sachet de levure, un tout petit peu de lait, et puis à côté de l'eau et du rhum, on va s'en servir dans un petit instant. Vous allez mélanger 150 g de sucre avec les jaunes. Vous allez ce qu'on appelle blanchir. Vous allez monter vos blancs en neige, vous ajoutez la farine, le beurre fondu, vous mélangez tout ça, ça vous fait ce qu'on appelle un appareil, que vous allez mettre dans des petits moules, soit un grand, soit des petits moules individuels bien beurrés. Et ça, c'est la génoise pour faire le baba au rhum. Vous cuisez ça 15 minutes à 180 degrés, puis vous baissez le four à 150 et vous laissez encore 15 minutes. Et pendant ce temps, vous réalisez un petit sirop. Alors le sirop, c'est le sucre qui reste, donc 150 grammes, avec l'eau et un joli trait de rhum, bien sûr. Une fois que ce sucre a fondu avec l'eau, que vous avez ce sirop, vous allez imbiber vos babas bien comme il faut, de manière à ce qu'ils soient...
Très important de bien imbiber les babas, parce que parfois, on est déçu.
Ensuite, avant de servir, si vous voulez rendre votre recette plus contemporaine, vous rajoutez un petit peu de crème chantilly, évidemment. Et puis surtout, Mathieu, on arrose généreusement d'un bon rhum vieux, un rhum ambré qui a du goût.
Bien sûr, avec modération néanmoins.
Oui, bien sûr.
Et
voilà.
C'est tout l'art d'en mettre suffisamment, mais toujours avec modération. Ouais. C'est la complexité de notre époque.
Merci beaucoup, Olivier
Pouls.
On vous retrouve demain. ici même devant vos fourneaux pendant toute la nuit et en podcast sur Europe 1.
Il ne bouge pas, il est devant sa cuisine.
Mais ça me permet de l'écouter en podcast sur Europe 1.fr.
C'est très agréable. J'ai longtemps cru, Stéphane, que la présence de votre chronique à la toute fin de notre émission n'était qu'un pur hasard du conducteur. Ce n'est que récemment qu'on m'a rapporté vos mots en conférence de rédaction, sans moi, je cite « Faut finir avec ma chronique, on peut quand même pas laisser le dernier mot au petit con ». Mais de fait, vous avez le dernier mot, Stéphane, puisque vous nous racontez chaque jour l'origine d'une expression. Mais le petit con vous écoute, essayez d'être bon.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Ces mots qui font le sel de la langue française. Langue de Molière, aux mille et une exceptions. Langue de Racine, la rythmique enchanteresse pour qui en connaît les méandres. Langue d'Aragon aussi, qui en la passant au tamis du surréalisme lui imprima la poésie qui lui manquait encore, pauvrine, à l'aube du XXe siècle.
Oh, Mathieu, mais c'est beau ce que vous dites, hein, mais est-ce que je peux la faire ma chronique?
Ah, excusez-moi Stéphane, allez-y.
L'expression du jour, ou même les expressions, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je vous en offrirai deux pour le prix d'une.
Mais nous sommes chanceux, Stéphane.
M'a été inspiré par Charles VI.
Directement, il vous a parlé dans la nuit.
Nous sommes, savez-vous quel jour nous sommes? Le 16 septembre 2020. Il y a 640 ans jour pour jour, Charles VI le fou succède à Charles V le sage. La France passe donc de la sagesse à la folie. Surnommé au début de son règne Charles le Bien-Aimé, les avis divergent sur les raisons progressives de son déséquilibre psychologique. Bipolarité, schizophrénie, quoi qu'il en soit, notre expression du jour sera « fou allié ». Elle date, voyez-vous, du XVIIe siècle. Les personnes atteintes de troubles graves laissent le corps médical désemparé. Les drogues abrutissantes n'existent pas encore. Et le seul moyen de les protéger contre eux-mêmes, la camisole de force. Ils étaient donc fous, au point d'être liés. Hein, vous avez compris?
J'ai compris. Fou allié, celui qu'on attache pour le maîtriser.
Exactement.
Mais vous nous avez parlé d'une seconde expression, Stéphane. Il me tarde de la découvrir.
Pas folle, la guêpe.
Oui, parlez-moi.
Étonnant.
Sans prix, je ne connais pas encore suffisamment. Ouais.
C'est étonnante formule qui naît au milieu du 19e siècle. On disait d'ailleurs à l'origine, pas bête, la guêpe. Et c'est la gouailleuse Arletty qui, dans le film « Circonstances atténuantes », popularise l'expression en 1939. D'une personne rusée ou capable de raisonnement subtil, on dit qu'elle est fine d'esprit, fine comme la taille de la guêpe, d'où l'explication de l'expression « pas folle, la guêpe ». Ayons d'ailleurs une petite pensée émue pour un objet qui, j'imagine, vous rend tout chose, Mathieu. La guêpière qui faisait la taille fine, mais qui n'est pas le féminin de guêpier, parce que, encore que, ce sous-vêtement féminin a dû rendre plus d'un honnête homme complètement fou allié. Vous avez vu, il a bouclé.
Oui, la guêpe a beaucoup aimé cette chronique, mon cher Stéphane.
C'est vous la guêpe ?
Oui, visiblement.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre touche à sa fin. Deux heures durant lesquelles nous aurons appris moult choses. Et surtout vous, Stéphane, parce que moi, en termes de culture, je pars avec une longueur d'avance. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, Stéphane, dans tout ce qu'on a appris? Déjà, vous avez découvert que Churchill était,
oui,
était alcoolique, j'avais du mal à le croire. Hein.
Oui, je le pensais sibaride, vous voyez, un jouisseur de la vie. Je ne pensais pas qu'il était à ce point alcoolique. Lord Byron, je ne savais pas qu'il avait couché avec sa demi-sœur.
Et surtout qu'il avait fait un gosse.
Oui, qu'il lui a fait un enfant. Ça franchement, personnellement, voyez-vous, ça me choque.
Je dirais que c'est votre limite. Vous en avez peu en matière de mœurs, mais quand même, faire un enfant à sa sœur, pour vous, non, c'est limite.
Il a des circonstances atténuantes, comme nous l'a dit. C'est qu'il ne savait pas que c'était sa sœur.
Mais surtout, c'était sa demi-sœur. Autre circonstance atténuante pour vous.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre s'achève maintenant.
Oui, Stéphane, c'est le cœur lourd. Et l'âme orpheline que nous nous apprêtons à déposer sur la console du studio Coluche, le linceul du deuil d'une émission qui fut, comme Paris au temps d'Hemingway, une fête. Une émission qui parlait mille et un sentiers qu'elle emprunta, sentiers parfois tortueux.
Mathieu.
Oui.
Oui, on s'en fout.
Ah.
Vous voulez pas plutôt que je vous dise maintenant de qui on parlera demain?
Bon, fais ça, ouais, c'est peut-être plus intéressant. Mais...
Eh bien, je vous lis. Demain, dès 16h, on vous raconte les destins de trois nouveaux personnages qui n'auraient jamais pu se croiser. Mais tout ça, c'était avant. La preuve. Thomas Andrews, l'architecte du Titanic. Marie Curie et Jimmy Heselden, patron de ce terrible engin qui s'appelle Segway, vous savez.
Je vois très bien,
c'est ridicule.
Ils
sont réunis par un seul point commun.
Lequel?
Ils sont morts de leur propre invention.
Et ça vous fait rire. Vous n'avez décidément pas de cœur, Stéphane Bern. Tout de suite, c'est Europe
Soir. Ils appartiennent aux morts les plus idiotes de l'histoire.
Ouais. Les morts les plus idiotes de l'histoire, ça sera demain avec vous, Stéphane Bern. Tout de suite, c'est Europe Soir avec Julien Bugier. Bonsoir, Julien.
Eh bien, j'ai hâte. Les morts les plus idiotes de l'histoire. Ça, c'est un teasing et une histoire. Merci Mathieu, merci Stéphane. Historiquement vôtre, c'est tous les soirs. Évidemment, à partir de 16h.